Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Fred Astaire, bonjour.
Salut.
Tu te portes très bien.
C'est vrai. T'as vu ça, j'ai fait de la piscine, j'ai pris des pecs et tout. Ça se voit pas à la radio.
De qui nous parles-tu ?
Je parle d'un écrivain britannique, pour changer un peu, David Lodge, donc qui est que j'ai découvert là au début de l'année complètement par hasard, comme souvent. C'est la beauté de la médiathèque, on flâne dans les rayons et puis on voit ce que le bibliothécaire met en avant. Donc j'ai pris un bouquin comme ça au hasard et c'était Jeux de société. Donc c'est pas le bouquin dont je vais parler, mais j'ai découvert David Lodge et j'ai lu ce bouquin et j'ai lu tout ce qu'ils avaient en fait depuis. Là je vais parler d'un de ses livres qui m'a donc David Lodge pour mettre c'est un universitaire britannique romancier dramaturge qui a écrit une dizaine de romans, qui a écrit pas mal de pièces de théâtre également, qui a aussi travaillé pour la télé. Et là, je vais parler de La vie en sourdine, qui est un. Alors, la plupart de ces romans parlent du milieu universitaire. Hein, il en parle avec beaucoup d'humour, beaucoup de détachement. C'est un milieu qu'il connaît bien, forcément, mais il en parle avec beaucoup d'humour. Et je trouve ça assez passionnant, avec des intrigues un peu délirantes, souvent. Et ce livre-là est un peu plus personnel, je pense, par rapport à ce que j'ai lu, ces autres romans, un peu plus centrés sur un universitaire toujours, mais qui est sourd, qui devient sourd en fait. Il n'est pas complètement sourd, il est ce qu'on appelle malentendant. L'intrigue parle d'un malentendu. Donc j'aime bien ça aussi, ce côté, ce malentendu qu'on ne dissipe pas, qui n'est pas dissipé et qui va donner lieu à une intrigue. C'est François Truffaut qui disait « J'ai pour habitude de ne pas dissiper les malentendus ». C'est du bien, c'était Truffaut un peu de temps en temps. commence sur un vernissage. Donc c'est cet universitaire, il est à la cinquantaine. Il discute avec une jeune femme qu'il aborde lors d'un vernissage. Elle parle plutôt d'un ton personnel, anecdotique et confidentiel. Il regarde le visage de la jeune femme pour voir s'il trahit quelque chose. Elle le regarde fixement d'un air sérieux avec ses yeux bleus et marque un temps d'arrêt dans son débit, comme si elle attendait une réponse. « Je vois », dit-il, ajustant son comportement afin d'exprimer à la fois son acquiescement et une réflexion judicieuse, dans l'espoir que l'une ou l'autre expression semblera adéquate, ou tout du moins pas grotesquement inappropriée à ce qu'elle pouvait bien être en train de dire. Toujours est-il qu'elle semble s'en satisfaire et elle se remet à parler. Il ne reprend pas son ancienne posture. Il ne sert à rien en fait d'orienter son oreillette droite pour capter ce qu'elle dit, puisque le babillage de la réception se déverse dans la gauche. Et si d'aventure il essayait de couvrir son oreille gauche avec sa main, cela ne ferait que déclencher un hurlement en retour dans sa prothèse auditive et lui imposer en même temps une posture qui paraîtrait totalement excentrique. Que faire maintenant? Que dire lorsqu'elle s'arrêtera de nouveau de parler? Il est bien trop tard pour avouer « Écoutez, je suis désolé, je n'ai pas entendu un traître mot de ce que vous m'avez dit depuis 10 minutes. Je suis sourd, voyez-vous, je n'entends rien dans ce vacarme. » Elle se demanderait raisonnablement pourquoi il ne l'avait pas dit plus tôt. Pourquoi il l'avait laissé continuer à parler, hochant la tête et murmurant comme s'il la comprenait. Elle serait contrariée, embarrassée, offensée. Il n'a aucune intention de paraître grossier. Elle marque à nouveau une pause dans son monologue et le regarde comme si elle attendait quelque chose. « Très intéressant, dit-il. Très intéressant. » Espérant gagner du temps, attendant de voir si cela suffira, il porte le verre de vin à ses lèvres, mais pour se rendre compte aussitôt qu'il est vide, et qu'il lui faut l'incliner presque à la verticale et le tenir ainsi quelques secondes pour contraindre les dernières gouttes du chardonnay du Chili à descendre de son gosier. La jeune femme le regarde d'un air curieux, comme si elle s'attendait à ce qu'il réalise un tour de magie, tenir par exemple le verre en équilibre sur son nez. Son verre de vin blanc à elle est presque plein, elle n'en a même pas bu une gorgée depuis qu'elle a commencé à lui parler, de sorte qu'il ne peut proposer d'aller avec elle au bar se resservir. Il serait tout aussi discourtois de partir seul remplir son verre ou de l'inviter à l'accompagner dans sa démarche. Heureusement, elle semble comprendre son embarras, non pas son véritable embarras, à savoir sa totale ignorance de ce qu'elle a dit, mais son besoin de boire un autre verre. Elle sourit et, faisant un geste en direction de son verre vide, dit quelque chose qu'il est presque sûr de pouvoir interpréter comme un encouragement à aller refaire le plein. Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says, when answering the phone, what country shall I say is calling from across the world? But she's not. It's all in her mind. It's all in her mind. Stephanie says that she wants to know.
She wants to know
why it is, though she's the door. She can't leave alone.
Stephanie says,
but doesn't hang up the phone. What seashell sea is calling from across the world? But she. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind.
it good or bad? It's such an icy feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska.
Voilà environ une heure que cette fille me raconte sa vie en détail. Et moi, ça doit bien faire 20 minutes que j'ai décroché. Bon, je pense pas du tout qu'elle s'en soit rendue compte, hein. En tout cas, j'espère que non. Et d'ailleurs, par précaution, de temps en temps, je lui lance un petit...
C'est pas vrai. Incroyable, hein?
Oui, elle a rien vu, hein. Non, en fait, ce que j'essaie vraiment de suivre, c'est la conversation des deux types assis là, derrière.
Ça fait quand même 3 fois que tu l'invites à dîner. Elle doit bien se douter que tu t'intéresses à elle, non?
Ouais, mais non, je sais pas, ça doit venir de moi, je crois que j'ai pas envoyé les bons signaux.
Un homme de 30 ans passé se demande s'il a, je cite, « envoyé les bons signaux ». Moi, je me demande comment on a pu passer de ça... Ah ça?
T'as même pas essayé de l'embrasser?
Non, attends, je la sens pas prête, non.
J'ai bien une théorie sur la question, mais il faudra que je vous l'expose plus tard, parce que la jeune femme en face de moi va finir par remarquer quelque chose.
Cependant, elle sourit à nouveau, décline l'offre en secouant la tête, puis, à son grand désarroi, lui pose une question. Il comprend que c'est une question en raison de l'intonation montante, et parce que ses yeux bleus s'élargissent légèrement, ses sourcils se froncent, et cela exige évidemment une réponse. Oui, dit-il, en prenant le risque. Et comme cela semble lui faire plaisir, il ajoute vaillamment « Absolument ». Elle pose une autre question à laquelle il répond également par l'affirmative, et alors, à sa grande surprise, elle lui tend la main. Ravi de vous avoir rencontré. Donc c'est le tout début du livre, et donc là, voilà, il rencontre une jeune femme, donc il lui a parlé, il lui a posé une question, il a dit oui, il n'a pas compris. Et donc là démarre le roman, le côté intrigue du roman. En fait, cette jeune femme, c'est une Américaine qui fait une thèse sur la stylisation des lettres de suicidés. Alors c'est vraiment une sorte de MacGuffin, hein, ce côté cette jeune femme, on ne sait pas d'où elle vient, où elle a fait sa thèse, qui lui a demandé en fait d'être son directeur de thèse.
Il y a une vérité simple, sobre, crue, quoi. Un truc. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole? Isola, l'île, quoi. Vaste au maximum, quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi. Sera immense, sera énorme l'univers, quoi. L'énorme puissance d'univers, quoi. Il faut que Caracol, il existe en toi complètement, que Ertov Stroknis, il soit toi, quoi. Que Piedro de la Roca, tu le deviennes. Et la goutte aussi, et tout l'univers et tout le vent, que tu vives complètement là-dedans, quoi. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut, quoi. Et que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent, quoi. Et que tu te battes et que tu fasses aucune concession sur le reste, tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, t'es rien, la consulting, c'est de la merde, quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là, quoi. Ça restera, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là, ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là, t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, comme dirait Sartre, t'es pas superflu, quoi. Là, t'as une nécessité quand t'écris ça, quoi. T'as une nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut tenir, mec. C'est ça qu'il faut putain de tenir, quoi. Lâche pas le morceau. Tu fais pas enculer, tu fais pas disperser, tu fais pas fragmenter, tu fais pas de concession, quoi. Y'a pas de concession avec la vie, quoi. Y'a pas de concession, quoi. Tu vis, donc faut vivre à fond.
voilà, un petit passage où il parle de la surdité, parce que donc sa surdité qui est sous-jacente, enfin qui est essentielle à l'intrigue et au roman. Voilà comment il en parle. La surdité est comique, alors que la cécité est tragique. Prenez Oedipe par exemple. Imaginez qu'au lieu de s'arracher les yeux, il se soit crevé les tympans. Ça aurait été plus logique en fait, puisque c'est par les oreilles qu'il a appris l'atroce vérité quant à son passé. Mais cela n'aurait pas eu le même effet cathartique. Cela pourrait susciter de la pitié peut-être, mais pas de la terreur. Bien sûr, vous pourriez arguer que la cécité est une affliction plus grande que la surdité. Si j'avais à choisir entre les deux, je choisirais la surdité, je l'admets. Mais ces deux infirmités sensorielles n'ont pas entre elles que des différences de degré. Culturellement, symboliquement, elles sont antithétiques. Le tragique par opposition au comique. Le poétique par opposition au prosaïque. Le sublime par opposition au ridicule. Prenez ces vers de Ben Jonson. Bois ma santé avec tes yeux, et je ferai serment avec les miens. Imaginez qu'il ait écrit « Bois ma santé avec tes oreilles ». En fait, ce n'est pas plus illogique que de dire « Buvez avec les yeux ». Les deux métaphores sont également impossibles à un niveau conceptuel. En fait, une oreille ressemble mieux à une coupe qu'un œil. Et vous pourriez même, en théorie, boire ou moins laper quelque chose dans une oreille. La vôtre acceptée cependant. Mais ce n'est pas poétique. Les aveugles sont touchants. Les gens qui voient les considèrent avec compassion, se donnent de la peine pour leur porter assistance, les aider à traverser des rues passantes, les avertir des obstacles, caresser leur chien. Le chien, la canne blanche, les lunettes noires sont des signes visibles de leur infirmité qui suscitent un mouvement spontané de sympathie. Nous autres, durs de la feuille, ne disposons d'aucun signe de ce genre susceptible d'induire de la compassion. Nos prothèses auditives sont presque invisibles, et nous n'avons pas d'adorable animal chargé de s'occuper de nous. Quel serait l'équivalent d'un chien d'aveugle pour un sourd? Un perroquet, jugé sur votre épaule, vous braillant dans l'oreille? Les gens qui ne vous connaissent pas ignorent que vous êtes sourd, jusqu'au moment où ils essaient de communiquer avec vous pendant un certain temps, mais sans y parvenir. Et alors, ils éprouvent de l'irritation plutôt que de la compassion. N'insulte pas un sourd, et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle, dit la Bible. Allons, il n'y a qu'un syndic pour faire un croc en jambe à une personne aveugle. Mais même Fred, c'est sa femme, même Fred laisse éclater un merde alors, quand elle ne parvient pas à se faire comprendre de moi. Les prophètes, les voyants, sont parfois aveugles, Tirésias par exemple, mais jamais sourds. Il y a là un conflit inégal entre les deux organes. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ils expriment des sentiments. Ils se présentent dans des teintes et des couleurs subtiles, séduisantes. Ils débordent de larmes, ils brillent, luisent et pétillent. Les oreilles, eh bien, ce sont plutôt des choses qui ont un drôle d'aspect, surtout quand elles sont écartées. Des paquets de nerfs et de peau qui sécrètent du cérumen produisent des touffes de poils. Pas étonnant que les femmes accrochent des boucles d'oreilles à leur lobe, les hommes aussi, bien sûr, dans certaines sociétés et à certaines époques, pour distraire l'œil de ce trou poilu. Il mène tout droit à votre cerveau.
God knows how I adore life. When the wind turns on the shore lies. Time bell blows my heart and I have scored a better day. Well, nobody made this war of mine, and the moments that I enjoy are place of love and mystery. Mysteries of love, where war is no more. Ah.
this war of mine, and the moments that I enjoy, a place of love and mystery. I'll be there anytime. Mysteries of love where war is no more.
La semaine, Agnès Jaoui a déballé pour vous sa bibliothèque en lisant le début des livres qui lui sont chers. Elle s'en explique d'une certaine manière aujourd'hui avec cette dernière lecture, extraite de L'art de la fiction de David Lodge. On l'écoute.
À quel moment un roman débute-t-il ? Il est aussi difficile de répondre à cette question que de savoir à quel moment un embryon humain devient une personne. À coup sûr, il est rare que le créateur d'un roman le commence en traçant à la main ou en tapant à la machine les premiers mots que lit le lecteur. La plupart des écrivains se livrent à un travail de recherche préliminaire, ne fût-ce que mentalement. Certains préparent le terrain méticuleusement pendant des semaines ou des mois, composant des diagrammes pour l'intrigue, établissant un curriculum vitae pour chacun de leurs personnages, et ils notent des idées, des décors, des situations, des bons mots, dans un carnet, où ils iront puiser au fur et à mesure de la composition de l'œuvre. Chaque écrivain a sa propre façon de travailler. Pour Les dépouilles de Poynton, Henry James a pris des notes presque aussi abondantes et aussi intéressantes que le roman achevé lui-même. Quant à Muriel Spark, d'après ce que j'en sais, elle rumine mentalement l'idée d'un nouveau roman et ne met la main à la plume que lorsqu'elle a trouvé une phrase initiale qui la satisfasse. Pour le lecteur toutefois, le roman débute toujours par la phrase d'ouverture de l'œuvre, qui peut, cela va de soi, ne pas être la première phrase écrite par le romancier. Puis il passe à la seconde phrase et à la suivante. Mais où se termine le début d'un roman ? Voilà une autre question difficile. Est-ce à la fin du premier paragraphe, des premières pages, du premier chapitre ? De quelque manière qu'on le définisse, le début d'un roman est un seuil qui sépare le monde réel dans lequel nous vivons du monde que le romancier a imaginé. Le début d'un roman doit, par conséquent, nous attirer de l'autre côté de ce seuil. Ce n'est pas la chose aisée. Le ton de l'auteur, l'étendue de son vocabulaire et ses habitudes syntaxiques ne nous seront pas encore familiers. Nous abordons un livre en le lisant lentement et avec hésitation. Il nous faut absorber et enregistrer quantité de données nouvelles, comme le nom des personnages, leur rapport d'affinité ou de consanguinité, les détails du contexte spatio-temporel, toutes ces choses sans lesquelles on ne peut suivre l'intrigue. Mais tous ces efforts vont-ils en valoir la peine ? La plupart des lecteurs accordent à l'auteur le bénéfice du doute pendant au moins quelques pages avant de décider d'abandonner sa lecture et de repasser le seuil. Dans les exemples ci-dessus, en revanche, il y a très peu de chances pour que nous hésitions, ou alors un instant seulement. Car dans chaque cas, la première phrase du roman nous accroche d'emblée.
The lights at the foot of the audience, smile on her face, just taken in every glance. She loves the way they love her. She loves the way they love her. And she smiles. She loves every sweet talking lie. Smooth.
management trips on the wire as he's paying her a compliment. She loves the way he loves her. She loves the way he loves her. And she smiles. She loves every sweet talk and lie.
Merci.
C'est un plaisir.
Poète, chanté, il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère. Pour mettre pas les...